Chapitre 13. Deux manières de voir la même chose. Quand tout le monde fut de retour à Clèves, Camilla, qui avait observé qu'Edgar regrettait qu'on n'eût pu se rendre à sa chaumière, proposa que la partie fût renouée pour le soir même, et son oncle y consentit, à condition qu'il n'en serait pas. Mais, avant de se mettre en route, Edgar demanda à parler à Sir Hugh en particulier. Sir Hugh, ne doutant pas que ce ne fût pour lui faire les premières propositions de mariage pour Indiana, n'eut pas la patience de monter à son appartement. Il aima mieux ordonner à tout le monde de se retirer. En donnant cet ordre, il fit à Indiana un signe de tête qui lui donna à entendre, aussi bien qu'à Miss Margland, à Camilla et à Eugenia, que l'on pouvait s'attendre à quelque chose de nouveau. Indiana, étant rentrée chez elle, alla, quoique un peu confuse, donner à la fenêtre un coup d'œil pour voir si la voiture était là. S'adressant alors à Miss Margland, « Dites-moi, je vous prie, lui dit-elle, ne serait-il pas à propos que je le refusasse d'abord ?» Miss Margland lui donna sur ce point les instructions convenables et entama alors la négociation relative au projet de continuer à vivre ensemble. Eugénia eut regret de voir qu'Indiana fut, par un effet de sa négligence, si peu instruite et si peu propre à devenir la compagne de Mandelbert. Camilla, extraordinairement pensive, alla se promener seule dans le jardin, cherchant de préférence le sentier le plus solitaire. Mais Sir Hugh fut bien désagréablement trompé dans son attente. Edgar, sans dire un seul mot d'Indiana, informa le baronnet de la situation dans laquelle il avait surpris Bellamy et des soupçons qu'il avait conçus sur la destination de la chaise dans laquelle il se proposait de faire monter Eugénia s'il ne fût arrivé fort à propos à la ferme, ajoutant que sa reconnaissance envers M. Tyrold, son respect pour Sir Hugh et son affection pour toute la famille lui avaient fait un devoir de révéler sans délai ses particularités. Le baronnet frémit d'horreur et déclara qu'il voulait envoyer un exprès chercher Clermont afin qu'il vînt épouser sur le champ Eugénia, et qu'en attendant, il allait faire barricader toutes les fenêtres de la maison et renfermer sa nièce dans son appartement. Edgar le dissuada d'avoir recours à ces mesures violentes, mais il lui conseilla de parler à sa nièce du danger qu'elle avait probablement couru et dont elle semblait n'avoir pas la plus légère idée, de l'engager à ne pas sortir cet après-midi et d'envoyer chercher M. Tyrold pour lui faire part de cette affaire. Sir Hugh le remercia de ce conseil et résolut de s'y conformer de point en point. Alors il demanda la voiture pour Miss Margland, Indiana et Camilla. Voyant que ni Sir Hugh ni Eugenia n'étaient de la partie, le docteur Orkborn refusa d'en être. Lionel était retourné chez son père. Edgar à cheval prit les devants pour aller, avec la permission du baronnet, inviter le docteur Marchmont à occuper la quatrième place dans la voiture. Arrivé à la maison du docteur, il entra tout droit dans son cabinet d'études, privilège qui lui était exclusivement accordé. Il le trouva au milieu de ses livres et de ses papiers, qu'à la requête d'Edgar, le docteur mit aussitôt de côté. Il restait encore du temps avant l'arrivée de la voiture. Edgar paraissait fort agité. Il regarda quelques instants son ami en silence. Ensuite, lui frappant doucement sur l'épaule, « Docteur, dit-il, vous avez passé quelque temps avec ces jeunes personnes, mais à peine avez-vous pu les reconnaître. Vous ne les aviez vues que dans leur enfance. » « Il est vrai, dit le docteur, et elles sont devenues des femmes charmantes. Indiana est d'une beauté si parfaite qu'il n'est presque pas possible de cesser de la regarder. » Eugénia unit tant d'innocence à tant d'instruction qu'on oublie ses défauts physiques en conversant avec elle. Et Camilla ? Il s'arrêta. Edgar tourna la tête pour ne les pas voir et n'en être pas vu. Camilla, continua-t-il, paraît être douce sans artifice, gaie sans éclat. J'avoue qu'elle me paraît, en un mot, la plus attrayante créature que j'ai jamais vue. Edgar, pouvant à peine contenir sa joie, regarda le docteur avec des yeux et une physionomie où se peignait toute sa sensibilité. « Et vous croyez donc ? » dit-il en lui serrant involontairement la main. « Vous croyez ?» Il ne put continuer. Le docteur l'embrassa tendrement. « Mon jeune ami, lui dit-il, je vois la situation de votre âme et je crois que tout le bonheur possible sur la terre vous est promis. Cependant, si vous n'avez fait encore aucune démarche directe, souffrez que je puisse vous parler. » Loin d'avoir fait aucune démarche, répondit-il, je n'ai pas même encore formé une résolution. Ici, ils entendirent le bruit de la voiture qui s'arrêta pour prendre le docteur. Il répéta, oui, je pense que tout le bonheur possible vous est promis. Edgar ne se montra point, il était trop ému. Il se tint dans l'ombre jusqu'à ce que le docteur fût monté en voiture. Alors il monta lui-même à cheval et répéta sans le vouloir ces mots, tout le bonheur possible vous est promis. Il galopa si vite qu'il fut encore avant les autres à la chaumière. Dès qu'ils furent arrivés, Edgar donna la main à Miss Margland et à Indiana, laissant exprès Camilla avec le docteur pour que celui-ci pût mieux la voir et la juger. Jamais Indiana n'avait été d'aussi bonne humeur. Bientôt, maîtresse d'une belle terre et d'une fortune considérable, encore animée par la vapeur de l'encens qu'elle avait respirée toute la matinée, elle songeait avec délices à ses habits de noces et à divers autres ornements qu'elle désirait depuis longtemps. Jamais aussi Miss Margland n'avait été si douce, si polie, si complaisante. Camilla seule avait l'air sérieux, elle qui, naturellement, était toujours si gaie. « Oh Dieu, est-ce là cette chaumière que vous aviez si fort à cœur de nous montrer ?» dit Indiana en y entrant. « J'ai cru que vous vouliez nous faire voir quelque chose de fort joli. » « Et que voulez-vous, dit Edgar, trouver de joli dans une chaumière ?»« Je ne sais, mais j'ai cru que vous nous aviez fait venir pour nous montrer quelque chose d'extraordinaire. » Camilla, qui la suivait, fit une exclamation bien différente. Ce fut une exclamation de surprise et de plaisir qui lui rendirent à l'instant toute sa gaieté naturelle. Elle avait à peine passé le seuil de la porte qu'elle reconnut, dans la paysanne qui la saluait si profondément, la femme du prisonnier pour qui elle avait intercédé auprès de Mandelbert et à laquelle Indiana n'avait fait aucune attention. « Que j'ai de joie, s'écria-t-elle, de vous voir et de vous voir ici. Votre santé me paraît meilleure. J'espère que vous vous portez tous bien. » « Ah, Miss, répondit la femme, nous devons tout à ce bon jeune monsieur. Il nous a placés dans cette chaumière toute neuve et nous emploie à son service. Que le ciel le comble de ses bénédictions. Je suis sûre qu'il en sera récompensé. » Edgar, un peu ému, s'occupait à jouer avec le petit garçon. Camilla paraissait enchantée de ce qu'elle voyait. Indiana était saisie d'étonnement sans savoir pourquoi. Le docteur les examinait tous attentivement. Miss Margland, ne doutant pas qu'il ne fût incessamment question de faire une nouvelle quête pour l'établissement de ces malheureux, repassa lestement le seuil de la porte et alla, dehors, contempler le paysage. Le mari, vêtu alors décemment, mais encore faible et un peu souffrant, remercia humblement Camilla de les avoir recommandés à leur bienfaiteur. « Non, non, s'écria-t-elle, je n'ai rien fait pour vous. Vous devez tout à l'extrême misère que vous avez éprouvée et à la générosité de M. Mandelbert. » Vous voyez, dit Edgar, combien il faut peu de choses pour contenter ces pauvres gens. Je n'ai rien fait, ou presque rien. Cette chaumière se trouvait vacante. Oh, Miss, s'écria en l'interrompant la paysanne, si vous saviez de quelle manière ce bon monsieur a fait tout cela, avec quelle bonté il en a usé envers nous, et comment il a excité en notre faveur la bonté des autres, ne permettant pas que personne ne nous reprochât nos fautes. Si vous saviez ce qu'il a fait pour mon pauvre mari malade, comment il a fait vêtir mes pauvres petits-enfants qui étaient plus qu'à moitié nus, et, ce qui est encore plus remarquable, comment il nous a sauvés de la honte d'une vie criminelle. » Camilla ne put retenir ses larmes. Pour se distraire, elle courut prendre le petit enfant dans ses bras et, tout en le couvrant de baisers, « Heureuse, trop heureuse, Indiana » dit-elle dans le fond de son cœur. Elle s'assit sur une chaise de bois et, dans un profond silence, se livra tout entière à l'enfant. Indiana, dont rien ne troublait la tranquillité, se mit à dire tout ce qui lui passa par la tête. Elle fit la revue de ce qui se trouvait dans la chaumière, déplaçant et bouleversant tout, sans considération pour ceux qui l'habitaient, et même sans prudence pour elle-même. « Voyez donc ce croc de cheminée! Oh Dieu, qu'il est noir! Et ces petites chaises basses! Est-ce là votre meilleur jupon, bonne femme? Et ses couvertures ! Oh Dieu, quelle horreur ! Et autres semblables propos. Miss Margland, jugeant qu'à présent la caisse devait être faite ou oubliée, rentra et demanda si on ne voulait pas revenir à la maison. Camilla remit à regret l'enfant à sa mère, mais elle ne voulut point partir sans jeter un coup d'œil sur le ménage de ses bonnes gens. Tout lui parut fort propre, fort bien arrangé. Ses vêtements sont bien lavés, ses casseroles sont bien récurées. Tout me paraît en bon ordre et j'espère que dans cette petite habitation saine et commode, bientôt il ne vous manquera plus rien. » Edgar raconta tout bas au docteur Marchmont l'histoire de ses nouveaux hôtes. « J'espère, dit-il, que vous ne désapprouverez pas ce que j'ai fait. Ils m'ont paru naturellement si disposés au bien que je n'ai pas voulu que l'indigence pût de nouveau les porter au mal. » « Vous avez certainement très bien fait, répondit le docteur. Donner de l'argent sans information et sans secours ultérieurs à ceux qui se sont adonnés à des pratiques criminelles, c'est une générosité mal entendue et qui peut être nuisible à la société, c'est souvent leur fournir les moyens de persévérer dans le mal. Mais leur donner à la fois de bons conseils et les moyens de se bien conduire à l'avenir, c'est, sans contredit, rendre le plus important service à la société et à eux-mêmes. » Indiana et Miss Margland, excessivement ennuyées, étaient déjà dans la voiture. Camilla baisait encore les enfants et souhaitait au père et à la mère toutes sortes de prospérité. Elle donna alors la main à Edgar qui l'attendait et qui ne put s'empêcher de lui dire à mi-voix « Qui peut, Miss, vous ressembler, tout à la fois si vive et si sensible ?» Frappée de ce propos et du ton avec lequel il avait été prononcé, elle ne répondit rien. « Hélas, dit-elle en elle-même, je crains qu'il ne soit pas parfaitement heureux avec Indiana. » Le docteur descendit devant sa maison et y entra, après avoir dit à Edgar qu'il désirait lui parler le lendemain matin. Pendant la route, Camilla eut l'esprit occupé de la bienfaisance d'Edgar. Il ne lui vint pas en pensée qu'elle-même avait donné la première impulsion à ses sentiments généreux.